Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal de vivre. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer, maintenant, monsieur de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Grégoire, il est parlé anarchiste communiste, ça, je crois que c'était la galère. Il n'y avait pas de micro, notre technicien était dans les choux. Bonsoir.
Ouais, donc tu as dit que c'était une parole anarchiste communiste. Oui, c'est non, ça. Bon, c'est ça. Cette semaine, on retourne de nouveau à Notre-Dame-des-Landes, puisque la lutte continue toujours là-haut, et on a de nouveau un camarade qui nous fait la gentillesse d'être avec nous ce soir. Est-ce que tu m'entends ?
Oui, bonsoir.
Salut, re-salut. Alors, au travail, hein, tu vas commencer tout de suite. Est-ce que tu peux nous faire déjà comment ça va ?
Une semaine de bagarre. Dizaine de jours d'occupation militaire là, et policière.
C'est-à-dire pas trop fatigué au niveau de la répression, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a eu des
Je crois que la fatigue est physique peut-être, mais en tout cas moralement, on tient le cap, on baisse pas la garde.
D'accord, et il n'y a pas eu d'interpellation, il n'y a personne qui a eu des ennuis pour le moment ?
Si, il y a eu quelques interpellations, mais les gens ont été relâchés assez rapidement, il y a eu 2-3 gardes à vue, et puis ça a été relâché assez rapidement, il y a eu des personnes qui ont été condamnées pour des jets de projectiles, quoi. Ou réunions en bande armée, par exemple.
Oui, quand même, avec des carottes et des choux-fleurs, oui.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est toute la démesure de cette intervention, elle est là aussi, quoi.
Et alors, concrètement, sur le terrain, quelle est la situation ? J'ai presque employé des termes militaires ou guerriers, mais quel est l'état de la ZAD ? Quel est le rapport de force ? Quelle est la situation, quoi, en fait ?
Eh ben, comme tu viens de le dire, on est en état de guerre. Ouais. Voilà, c'est la guerre dans le bocage. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui affluent vers Notre-Dame-des-Landes pour défendre ce petit bout de terre contre un projet qui a 40 ans et qui a pour objectif de détruire 2000 hectares de terre pour un aéroport. Quoi. Et je crois qu'il y a des gens qui sont pas dupes et qui disent non, il faut défendre ça, quoi. Et puis qu'ils arrivent, on crée des barricades pour défendre les lieux qui n'ont pas été encore pris. Parce que depuis quelques jours, ils ont détruit des maisons. Où il y avait des gens qui habitaient dedans et maintenant qu'ils se retrouvent à la rue et ils ont fait ils ont vraiment rasé à un point où ils récupéraient chaque pierre, chaque bout de bois pour pas qu'on le réutilise.
Oui, sur les images c'est effectivement assez impressionnant de voir que bon, alors c'est pas systématique, faudra essayer de, je sais pas pourquoi ils le font pas systématiquement ou pourquoi ils le font quand ils le font, mais c'est les bulldozers, enfin c'est d'abord les flics, hein, les militaires et les expulsions, puis ensuite les bulldozers pour évidemment éviter que les gens se réinstallent avec parfois vraiment quelque part un truc de vandale où t'as juste les murs qui sont niqués pour juste éviter que les gens se réinstallent, quoi.
Voilà, mais après, bon, ils reviennent aujourd'hui, je crois qu'ils ont terminé le désamiantage d'une maison pour pouvoir raser encore un peu plus. Donc, cette opération, c'est aussi pour faire marquer le vide dans lequel doivent vivre les gens là, parce que aujourd'hui là, ce sont les sans droit ni titre, voilà, ce qu'on appelle les squatteurs qui sont virés, mais demain ça va être les ceux qui ont un bail précaire, les locataires, quoi. Ouais. Et après les paysans qui restent encore. Et donc voilà, le processus avance, ce processus bétonneur, destructeur, démolisseur, bah, il est en marche. Hein. Et nous, bah, il nous reste plus que la résistance, quoi, en face.
Alors, t'as dit sans droit ni titre, mais c'est pas parce que on est sans droit ni titre, hein, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qu'occupent des lieux sans droit ni titre selon la formule consacrée, on peut pas faire tout le temps n'importe quoi, parce qu'il y a quelques lieux qu'on réussit à obtenir des délais de la part de la justice.
Voilà, là, il y a deux lieux encore qui ont obtenu un délai, donc normalement, le délai devait tomber. Ce week-end, là, le délai a été obtenu jusqu'au 15 novembre pour les Rosiers, une des maisons qui est occupée depuis 5 ans maintenant. Et puis pour un autre lieu, il y a du délai jusqu'au mois de décembre. Donc, ça laisse un peu le temps de souffler, le temps de se réorganiser aussi pour ces lieux qui vont connaître le même sort en fin de compte au final que les autres. Si on ne fait rien.
Alors certainement, mais bon, l'intérêt il est aussi de pas laisser échapper tous les aspects de la lutte, de batailler sur tous les fronts, que ça soit directement sur le terrain par de la résistance, mais aussi essayer au maximum de d'emmerder, d'empêcher que ça se fasse, le plus facilement possible.
Après, au niveau de la justice, c'est vrai qu'il y a eu des procédures, multiples procédures, que ça soit les occupants des maisons vides ou les associations historiques comme la CIPA, la DECA, qui utilisent le recours juridique justement pour retarder le projet, pour essayer d'enrayer l'avancée du projet. Mais on voit bien que la justice est toujours du côté du porteur de projet. Et on voit bien, en ce moment, quand on constate un peu l'opération qu'on est en train de subir, là, on voit bien que tous les délais qui avaient été accordés tombent à peu près dans la même période. Donc il y a bien cette volonté de faire partir tout le monde à peu près à la même période, à la même date, pour que la zone soit vidée de vie humaine et de bestioles, pour pouvoir aplanir tout ça, raser et bétonner tout ça, quoi.
Oui, il y a une chose que je voulais savoir, il y avait le sabot là, qui risquait ce matin d'être expulsé, c'en est ouf.
Eh ben le sabot, puisque j'en viens, j'y suis passé, les barricades sont toujours érigées, il y a eu des flics qui sont passés dans la matinée avec un huissier. En demandant, enfin, il a fait plusieurs lieux, mais il est passé d'abord au sabot et en demandant aux gens qui étaient sur les barricades s'ils allaient partir, chose que, il aura été répondu négativement, quoi. Les gens resteraient ici, quoi. Et puis il est reparti. Donc je pense que là ils ont fait un tour d'huissier avec l'huissier pour voir la température des lieux, poser cette question, voilà, c'est quoi, est-ce que vous comptez partir? C'est quoi vos intentions? Voilà, c'est ça les questions qui ont été posées. Et parce que je pense que la gendarmerie va prendre, ou la préfecture en tout cas, va prendre les mesures qui sont nécessaires. En tout cas, il y a dû sûrement avoir un référé minute par minute, heure par heure, ouais, pour ces lieux-là et pour les vider dès demain matin. Parce que là, aujourd'hui, ça a été plus ou moins tranquille, avec quelques survols d'hélicoptères aujourd'hui, pendant que les gens s'activaient à renforcer les lieux. Mais il y a déjà des arrivées de troupes supplémentaires, hein, des renforts de troupes. On en voit partout affluer là, hein, des camions de gendarmes. Et on se doute bien que demain ça va être l'assaut militaire, quoi, pour la deuxième vague, ce qu'ils appellent la deuxième vague.
Ouais, et alors effectivement, tu le dis, on en parlait aussi la semaine dernière, c'est une véritable occupation militaire du bocage, quoi. Alors certes, qui semble se faire, on plaisantait la semaine dernière avec ton camarade en disant que c'était des expulsions HQE qui semblaient se faire avec une certaine, en tous les cas en respectant les procédures et puis de manière pas trop speed et pas trop violente, quoi, même si évidemment c'est super violent, mais c'est une vraie occupation militaire, concrètement ça se traduit comment?
Eh ben, concrètement, déjà, c'est juste pour rappeler, cette opération s'appelle Opération César. c'est le nom qui a été donné par la préfecture. Et hein, quand on sait César, voilà, ce qui, quand on connaît sa phrase, Veni, Vidi, Vidi, donc c'est en référence à Vinci, Vinci, voilà, c'est vaincre, il faut vaincre. Donc c'est déjà, on est déjà dans un ordre de grandeur pour un aéroport grand, pour un aéroport HQE, haute qualité environnementale, donc on est toujours dans le plus. Et là, aujourd'hui, on constate que leur QG pour la gendarmerie est au Palace. C'était une ancienne discothèque, donc c'est le Palace, quoi. Là, on est. Et si on veut faire, si on veut jouer avec la symbolique des mots, on est vraiment dans quelque chose qui est dans la démesure, voilà. Quand on arrive sur la ZAD avec 1200 gendarmes, quoi, qui sont autour de nous, quoi. Et c'est vrai, on a cette pression. C'est fort quand même d'avoir ça en face, quoi. Ça fait peur, ça fait voilà, c'est quelque chose qui est terrible, quoi, en face de nous. Mais en même temps, voilà, on a cette volonté, nous, de résister, de les freiner dans leur avancée, de faire voir que rien ne sera facile pour eux, même si c'est dur pour nous, rien ne sera facile pour eux. Et qu'on compte justement sur tous les gens qui sont ailleurs, sont pas sur Notre-Dame-des-Landes, ne peuvent pas venir ici, quoi, mais qui sont ailleurs dans des villes comme Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Paris, voilà, qui font des actions de solidarité des localités et qui pour nous redonnent la pêche, nous redonnent le moral, parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. Ça, c'est important.
Oui, parce que oui, effectivement, face au rouleau compresseur là qui est déployé, le rapport de force, il est totalement en votre défaveur, mais il peut y avoir, il faut qu'il y ait de toute façon un relais et de la solidarité qui se crée pour que, effectivement, parce que on n'en parle absolument pas en dehors des réseaux militants de ce qui se passe en ce moment à Notre-Dame-des-Landes. Bon, il y a eu la première semaine, bon, il y a France 3 Pays de Loire, et puis il y a eu quelques images sur les chaînes d'information continue, mais voilà, ça fait 15 jours, ça va faire 15 jours bientôt que ça dure, et c'est quand même la marque à la fois du pouvoir et de l'État socialiste, mais aussi de ce personnage héros qui est Premier ministre et qui voulait son aéroport quoi qu'il en coûte.
Bah, seulement aujourd'hui, il y a une opinion publique qui tente à dire l'inverse, quoi. Je veux dire, l'été dernier, par exemple, ou l'été d'avant encore plus, il y a eu le grand forum, les forums sur les projets inutiles, par exemple, qui a réuni 15 000 personnes, et où on voit qu'il y a des gens, que ce soit pour un aéroport, pour une ligne TGV, ou pour du gaz de schiste, voilà, toutes sortes de projets inutiles qui existent en France, on voit bien que l'État décide, l'État veut gérer la vie d'autrui, tant que les personnes, sans le consentement des personnes, on voit bien qu'il y a une démocratie totale, qu'on nous dit votez pour nous, on fera le reste, et surtout ne vous occupez de rien, restez devant votre télé, quoi. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. On constate un endormissement, enfin une sorte d'endormissement, sauf qu'il y a des gens qui sont réveillés encore, qu'il y a des gens qui ne dorment pas, qui disent non, ça c'est pas bon. C'est pas ce qu'on a décidé nous on veut pas ce projet là quoi, et voilà, tout simplement c'est ça qui est en train de se passer, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui réagissent par rapport à ce qui se passe en ce moment à Notre-Dame-des-Landes et qui nous soutiennent, soit financièrement, soit en faisant des actions, soit en nous amenant de la nourriture ou des vêtements chauds ou du matériel de médical, ou voilà, il y a toutes sortes de d'aide, de dons, de soutien qui afflue de toutes parts et qui montre à quel point on peut être solidaire dans cette lutte-là, mais que je crois que là, c'est toutes les luttes qui sont solidaires entre elles, là, en ce moment.
Ouais, justement, il y avait ce week-end à Bayonne, samedi, donc, une grosse manif contre une ligne TGV, une LGV, ouais. Et il y avait quand même entre 7 et 10 000 personnes. Et dans le cortège, on pouvait voir une banderole qui faisait le lien avec vous, avec Notre-Dame-des-Landes et leur lutte à eux, et autour d'un tracteur d'ailleurs. C'était super chouette, quoi, de voir que finalement les luttes se rejoignent aujourd'hui concrètement, quoi.
Bah oui, et puis c'est, ce genre de manifestation, je pense qu'elles vont se multiplier là dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Parce que il les socialistes viennent, sont tout frais et moulus là, au pouvoir, ils viennent d'arriver, donc c'est pas gagné pour eux, ils arriveront jusqu'en 2017 dans cette situation-là, mais en tout cas, là, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, en tout cas, à Notre-Dame-des-Landes, là, ce qu'on constate, c'est qu'ils font une belle politique de droite, voilà. Je veux dire que du temps de Sarkozy, c'était encore plus tranquille, quoi. Et que, en tout cas pour nous, quoi. Et là, on a, voilà, ils ont sorti la matraque, ils ont sorti le bâton, ils nous gazent. Le deuxième jour de l'offensive policière, là, c'était 250 grenades lacrymogènes, sabots, par exemple, à ce lieu qui résiste, quoi, en l'espace de 4 heures. Et tout ça a été posé dans une manif devant la préfecture pour bien faire voir à quel point il y a un acharnement pour qu'on parte, pour vider cette zone, quoi. Sauf qu'on ne partira pas, quoi. Et ça, il faut bien que le pouvoir en place, le Jean-Marc Ayrault, qui est un des porteurs de projet, qui tient, parce que tout est, on sait aujourd'hui que toute cette opération César est décidée en haut lieu, à Lyon, quoi. Et que c'est lui qui chapeaute tout, c'est lui qui décide de cette opération parce qu'il veut son aéroport, quoi. Et pour lui, et pour son image, et pour sa carrière politique, c'est important qu'il reste une chose de Jean-Marc Ayrault. À part des échecs gouvernementaux, il faut au moins cet aéroport pour qu'on se souvienne de lui, quoi. Sauf que voilà, ben, en face il y a des gens qui résistent. Et ça, nous, face à l'opération César, eh ben on sera les Astérix, on sera les irréductibles gaulois du blocage. Et voilà, nous on y tient maintenant. Voilà, on est dans cette résistance de campagne, mais en sachant que tout autour de, il y a aussi des gens qui luttent avec nous au loin et que voilà, ça multiplie la lutte.
Alors, comment vous faites pour l'organisation concrète de la lutte, parce que l'espace est assez immense. Bon, peut-être qu'on peut décrire assez rapidement le lieu. C'est un bocage, donc c'est un lieu humide. La zone, elle fait environ 1800 hectares, c'est ça. Et il y a donc des petites maisons, la plupart en autoconstruction. Il y a des maisons aussi qui avaient été évacuées, qui ont été réoccupées. Mais comment vous faites concrètement pour vous organiser, pour vous bagarrer, quoi?
Eh ben concrètement, c'est vrai qu'aujourd'hui il nous manque un peu quelques maisons, quoi. Donc la réorganisation est en train de se faire. Voilà. On a été accueillis par quelques paysans qui nous ont prêté leur hangar pour assurer logistique, nourriture, vêtements, couchage et tout ça. Donc ça c'est un premier point. On a caravane à peu près un peu partout. Il y a des tentes qui se sont montées, des tentes militaires. C'est un peu absurde, mais on a des tentes militaires qui permettent de...
C'est bien, ça sème la confusion chez l'ennemi.
Voilà, de nous abriter, quoi, de nous tenir au chaud et au sec. Et puis, on a la solidarité aussi des habitants, de certains habitants qui résistent et qui veulent avoir l'aéroport. Donc, voilà, on a ces points logistiques. Et puis surtout, bon, voilà, pour l'instant, on ne manque de rien. C'est-à-dire qu'on a tellement de soutien qu'on ne manque de rien. Là, ce qui nous faudrait plus, c'est peut-être plus de monde encore dans les champs pour repousser la flicaille qui arrivera demain, quoi. Mais sinon, on ne manque de rien, quoi. Il y a tout pour lutter sur place, hein, en ce moment. Et là, dans l'organisation future, parce que il s'agit pas, nous, on n'a pas envie de partir, donc il s'agit aussi de réoccuper, de réinvestir les lieux. Et il a été décidé en assemblée générale vendredi que à partir du 17 novembre, on lance une manif de réoccupation, voilà, sur un lieu, voilà, qui a été détruit. Donc il y a un rendez-vous qui est donné à partir de 11h à Notre-Dame-des-Landes. On peut s'informer de ça sur le site. Des résistants et des résistantes au projet qui est zad.nadir.org. Ça c'est on peut avoir sur ce site des flash infos sur ce qui se passe heure par heure et minute par minute sur la ZAD en ce moment. Là, on peut savoir ce qui s'y passe. Voilà, il y a des informations et puis avoir toutes sortes d'informations pratiques en ce qui concerne la lutte ici, et puis comment y venir. Il y a des plans pour les cartes IGN pour se repérer un peu dans cet espace. Il y a les indications sur les points de chute, là où il faut arriver, où il faut être. Donc comment envoyer un don aussi, c'est pour les personnes qui veulent envoyer un chèque, quoi. Donc il y a plein de possibilités sur ce site, c'est bourré d'informations, quoi.
Ouais. Et donc il y a ce site, il y a la radio qui squatte elle aussi la fréquence de Radio Autoroute là, 107.7,
oui.
Qui est aussi un outil pour s'informer en temps réel pour les.
Formidable, formidable.
Et tu sais en fait, j'étais en train de réfléchir pendant que tu décrivais à la fois les socialistes, l'occupation militaire, puis les moyens de la résistance. Tout ça fait penser à quelque chose à mes camarades un petit peu plus expérimentés, puisque il y avait eu somme toute similaire la même chose lors de la construction de la deuxième centrale nucléaire à Chaux, quoi, avec la même occupation militaire du territoire et
ouais.
Aussi la création d'outils tels que la radio pour pouvoir communiquer. Et du coup, pour les habitants et les gens de l'extérieur, la redécouverte de liens qui se forgeaient dans la résistance, quoi, qui sont des liens beaucoup plus intéressants et des rapports beaucoup plus intéressants que, j'allais dire, les rapports quotidiens, quoi. Donc quelque part, il y a aussi cette forme de résistance là qui, elle, à mon avis, vous fait gagner tous les jours et vous fait avancer, quoi.
Eh ben, c'est ce qu'on se dit entre nous, parce que ce qu'on constate dans cette lutte, c'est que je crois que c'est un peu dans toutes les luttes, quoi. Moi, j'en ai vécu d'autres aussi, quoi, pour faire mon ancien, quoi. Et donc, il y a un truc qu'on constate, c'est que même si on perd une lutte, c'est ce qu'on n'a pas perdu, c'est toutes ces relations humaines qui sont tissées avec le temps. Et surtout dans la difficulté, parce que là, en ce moment, on est en train de vivre la difficulté. Et on voit que bah, y a des solidarités qui naissent, voilà, qu'on n'avait pas perçu avant. Il y a des choses qui sont en train de naître, plus ténues, quoi, qu'avant, quoi. Avant, on était, on occupait, mais c'était assez léger, quoi. La répression policière était plus légère. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on vit est d'autant plus et plus dure et plus marquante. Je veux dire, voir tous ces lieux de vie où on a créé du lien, où on a fait des fêtes, où on y a dormi, où on a échangé plein de choses, voir tout ça disparaître et voir tout ça réduit à néant, c'est vrai que ça fait mal au cœur, quoi. Ça fait mal aux tripes. Et aujourd'hui, les solidarités des gens, des habitants et puis des autres lieux aussi qui sont encore debout, quoi. Et ben voilà, ça fait chaud au cœur, et puis ça, c'est pas perdu. Ça nous servira pour la suite de la lutte, parce qu'elle est pas finie, parce que leur aéroport, au moins, il doit être en 2017. On n'est pas rendu, et on aura besoin de toute cette force intérieure là, qui est émanée en chacun de nous.
Ouais, c'est aussi ce monde-là que Héro et Vinci veulent faire crever et veulent détruire, un monde où finalement chacun serait soumis à une espèce de développement, à une forme de vie, à des déplacements, etc., etc. C'est aussi contre ça que, enfin, c'est ce que je pense, enfin, moi c'est pas très clair, que c'est aussi une forme de résistance qui est très très importante. Donc tu as dit le samedi 17 novembre, donc qui est un rendez-vous pour tous ceux qui pourraient se déplacer, mais ça n'interdit pas de faire des choses ailleurs, hein, bien sûr.
Bah, tout à fait, pour tous ceux qui ne pourront pas venir physiquement sur le territoire ici, libre à eux de s'organiser chez eux et de faire voir que la ZAD est partout. Voilà, c'est ce qu'on dit, hein. La ZAD est partout aujourd'hui et elle est en tout lieu, elle n'est pas qu'à Notre-Dame-des-Landes, quoi. Mais voilà, ce que globalement, Jean-Marc Ayrault, il se trompe, voilà, il s'est trompé de combat. Je pense que il veut son petit aéroport alors qu'il en existe 145 en France, et alors que l'aéroport de Paris veut s'agrandir, que Roissy-Orly veulent s'agrandir, alors que c'est une zone humide à 98%. Mais ça, il l'a pas compris, et que faut pas oublier que Jean-Marc Ayrault, alors qu'il voulait construire la centrale nucléaire du Carnet près de Nantes, avait signé pour la préservation de la zone humide du Carnet, avec lui, avec l'actuel maire de Nantes, Patrick Rimbert, avec Jacques Oxiette, qui est le président du conseil régional. Voilà, tous ces gens-là avaient signé pour que la zone humide du Carnet ne soit pas détruite, pour qu'on sauve les petits oiseaux, et qu'aujourd'hui, ces mêmes personnages qui sont au pouvoir et qui ont des postes clés, voilà, au niveau du gouvernement, au niveau local, quoi, et des collectivités locales, eh ben, c'est les mêmes qui sont prêts à détruire une zone humide qui est humide à 98%. Voilà. Donc on voit bien que leur pouvoir, ils en abusent, voilà, ils en usent et ils en abusent, et que on voit bien que leur démocratie c'est une vraie tromperie, et ce qui serait bien c'est que qu'aux prochaines élections, ces grands couillons les perdent, ou en tout cas que les gens n'aillent plus voter pour ces illusionnistes, voilà.
Bah, si vous pouvez ne plus aller voter du tout, ça serait aussi...
C'est ça, ouais, qu'il n'y aille plus, quoi.
Effectivement, la réaction, parce que, bon, Hérault, on l'a déjà dit, avant d'être maire de Nantes, il a été maire de Saint-Herblain, donc c'est vraiment,
oui.
Comme on emploie dans la logique politique des commentateurs, son fief, hein, c'est vraiment
c'est sa
zone à lui, quoi. Et du coup, est-ce que les gens qui vivent là et les gens à Nantes et puis les gens en Loire-Atlantique, ils le prennent comment? Quelles sont leurs réactions par rapport justement à cette politique et par rapport au fait que en votant pour ce type-là ou en ayant recours à quelles sont leurs réactions par rapport aux politiciens locaux, quoi? Et quelles sont les réactions des politiciens locaux?
Moi je crois que Hérault, il a réussi un truc à Nantes qu'on appelle la belle endormie. Il a réussi à la sortir de sa torpeur là avec un grand coup de baguette magique qui s'appelle la culture. Et il a sorti un gars, voilà, il a utilisé un gars qui s'appelle Jean Blaise, qui est à l'origine des Allumés, et il a fait venir Royal Deluxe avec ses grandes machines, ses grandes marionnettes géantes pour faire du théâtre de rue très populaire, quoi. Il a commencé à créer une emprise culturelle qui forcément était bon pour son image. Voilà, on sort la ville et tout ça, et il s'est attiré tous les politiques locaux comme ça, quoi, en disant waouh, c'est super Jean-Marc Hérault qui fait de la super culture, il y a de l'attractivité. Voilà, c'est ça, ils aiment bien ce mot, l'attractivité, quoi. Et que le MEDEF aime bien aujourd'hui, parce que le MEDEF aujourd'hui a signé dans le journal local comme quoi ils étaient pour aussi l'aéroport, pour qu'il y ait de l'attractivité et de la compétitivité.
C'est leur
mot, hein.
Donc, ouais, c'est les mots à la mode.
Et donc Hérault, il a fait de Nantes une vitrine, une marque, une espèce d'un objet culturel, qui permet justement de développer l'économie, voilà, mais à outrance, c'est-à-dire que maintenant tout le monde arrive sur Nantes, c'est la ville à la mode, c'est la ville où il fait bon vivre, voilà, c'est ce qu'on peut voir des fois dans les sondages, dans l'Express ou dans le Point, la ville où il fait bon vivre, et tout ça, c'est un mirage où de toute façon il y a des millions d'euros qui ont été versés là-dedans, mais en même temps on a oublié qu'il y avait des gens à la rue en ce moment qui n'ont pas la possibilité d'être hébergés et qui ont squatté il y a une quinzaine de jours le lieu unique, qui est un des lieux culturels phares, un des chouchous culturels de Jean-Marc Hérault, qui a été tenu par Jean Blaise, voilà, son animateur culturel, son gentil organisateur. Et là, ils ont été virés par le préfet. Ils ont été, parce que la ville de Nantes a porté plainte. Et ces gens-là, ils appellent au 115. Et au 115, on leur propose même pas un lit. Mais ces gens-là, on les met dehors quand même. On les met à la rue. Juste avant la trêve hivernale. Voilà. Et sans leur aucune proposition. Donc la ville de Nantes fait du culturel. Elle est pas capable de faire du social. Voilà. Elle est pas capable de trouver un logement pour les gens, quoi. Mais en ce moment, on est en train de construire dans l'ancien palais de justice de la ville de Nantes un hôtel 4 étoiles luxe pour les nantis. Voilà. On transforme tout un quartier pour y mettre des boutiques de luxe. Et donc, on a à Nantes, comme dans beaucoup de grandes villes, comme à Marseille, comme à Lille, comme à Bordeaux, le syndrome de la gentrification. Voilà. De plus en plus, on dégage les gens, les classes populaires, on les dégage plus loin parce qu'elles ne sont pas rentables. Voilà. Et Nantes, c'est ça, quoi. Et Nantes a besoin, voilà, la ville de Nantes a besoin de s'agrandir. C'est la métropolisation à outrance, et donc il faut aussi son aéroport pour international. Pour étoffer la panoplie.
C'est particulièrement frappant à Nantes quand même, puisque dans l'endroit de l'ancien port là, avec le hangar, effectivement tu l'as dit, le palais de justice c'est tout en haut de la ville là, et c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer, et ça se fait par à-coup. Alors il y a pas comme à Lille des espèces de gros événements où on associe la populace comme l'île 2000, l'île 3000. Ici à Reims, ce que tu décris, on l'a vécu en moins de 10 ans avec l'arrivée du TGV d'une part, et puis l'arrivée d'un tramway qui sont en fait des outils d'aménagement du territoire et des outils de l'urbanisme de classe, évidemment, comme tu l'as décrit. Donc finalement, en fait, c'est des raisons de plus pour se retrouver dans la lutte et dans la solidarité avec les gens qui, eux, ont construit eux-mêmes des maisons sur la ZAD, quoi, parce que c'est cette logique-là qu'on combat, effectivement. Si ici, bon, au-delà de la solidarité primaire qu'on peut avoir avec toute personne qui lutte contre les flics et l'État, mais on est vraiment dans cette logique-là d'un monde qui nous est imposé et dans lequel on a plus de, qui nous dépossède de nos vies, quoi, et de nos choix.
C'est ça, c'est un monde des fois qui nous échappe parce qu'il nous ressemble pas du tout déjà, et des fois on se demande, moi personnellement je me demande, mais qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les motive à procéder de la sorte, à agir de la sorte, à en vouloir toujours plus, à vouloir toujours grignoter, à bouffer l'autre, à se remplir les poches et tout ça. À quoi bon ? C'est ça qui est aberrant, en fin de compte, quoi. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre quand on essaie de vivre une vie simple, voilà, qui est basée sur des échanges cordiaux, simples, agréables, fraternels, tu vois. Qu'on n'est pas dans la monétisation absolue de nos échanges, tu vois. On essaie de faire du prix libre, on essaie de faire de la gratuité, de faire des free shops, tu vois, d'essayer d'échanger des repas en commun, faire du collectif, quoi, découvrir l'émancipation, l'autonomie, voilà, des choses simples, quoi. Et on n'arrive pas à comprendre les animes, qu'est-ce qui les motive à faire ce genre de choses, quoi. Pourquoi avoir toujours à vivre une vie toujours plus, quoi. Et ça, c'est le grand mystère du capitalisme, quoi. C'est pourquoi l'humain arrive à être entraîné dans cet engrenage-là, quoi. C'est ça qui est bizarre et qui nous paraît stupide, quoi. Voilà.
Bah, le pouvoir et le pognon, et puis en plus, quand eux ils décident des choses, ils mettent les moyens pour l'imposer. La preuve est le pognon qui est déversé pour vous virer de là, parce que bon, c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut, mais dans une période où on nous dit qu'il n'y a pas de fric, combien ça coûte ces centaines de gendarmes et de CRS et ces tours d'hélicoptères? Est-ce que t'as est-ce que vous avez des idées du coût de cette merde là?
Alors là, il y a des articles de journaux qui sont parus dans la presse locale et qui estimaient déjà, il y a quelques jours, à 500 000 euros le coût de l'opération. Mais dans l'article aussi, il disait que c'était sans compter tout un tas de tous les à côté, quoi. Les manifs qui avaient été faites, par exemple le 24 mars, quand il y a eu la grosse manif qui a avec près de 7 000, 8 000 personnes là, qui étaient rassemblées à Nantes, ils ont déployé 1 500 policiers, un hélicoptère, 2 canons à eau, voilà, c'était énorme. Enfin, le dispositif policier était digne d'un contre-sommet G8, G20, quoi.
Ouais, chaque misérable vitrine était surveillée, et il y avait même des flics à l'intérieur de la mairie.
C'était
assez énorme, cette manif.
Ils ont appelé ça la mairie, ils ont sanctuarisé la mairie. C'est ça, c'est le terme. Et le terme est exact. Sanctuariser des lieux, voilà, des lieux d'État, quoi. Hein. Voilà, il faut protéger l'État avant tout, quoi. Enfin, ils sont, c'est normal, les chiens de l'État protègent l'État. Mais, et du coup, là, on est en train d'estimer déjà qu'on a dépassé le million d'euros. Voilà, dans l'opération qui est en train de se passer actuellement, quoi. Parce que parce que là, ils prennent des hôtels, là, les CRS et les gendarmes qui sont dans le coin prennent des hôtels campaniles, des trucs comme ça, enfin des chaînes, là, des chaînes hôtelières, des Formule 1, dans le genre. Et puis ça, ben, c'est facturé entre 50 et 60 euros la nuit par gendarme. Et ils sont quand même plein de 1200, quoi. Voilà. C'est énorme.
C'est énorme.
Donc après, il y a d'autres manifs qui se passent, parce que chez nous, on a des manifs assez régulièrement à Nantes pour informer la population. Aujourd'hui, on fait des manifs en commun avec les expulsés du lieu unique, avec les sans-logis, avec le collectif Un Logement pour tous et toutes. Et parce que on est expulsé ou expulsable, donc il y a une convergence des luttes qui est en train de naître à Nantes, là. C'est un peu politiquement à Nantes, il y a quelque chose qui se passe là en ce moment. À Nantes et alentour, il y a une dynamique, une nouvelle dynamique. Il y a surtout un ras-le-bol général de la politique qui est menée par la gauche au pouvoir. Là. Et donc voilà, c'est tous ces manifs qu'on fait aussi, ça demande de l'encadrement policier. Et il nous coûte cher. Là. Mais nous, on est tout à fait d'accord. Allez-y, dépensez de la thune, dépensez de l'argent. Et puis ça mettra encore plus les gens en colère, quoi. Voilà.
Tout à fait. Eh ben écoute, donc on va rappeler qu'il y a cette manifestation du 17 novembre là. On va d'ailleurs écouter un appel que vous avez confectionné. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter hein?
Non, bah oui, c'est vrai que le 17 novembre, ça va être un moment crucial et très important pour les opposants et les opposantes, et que si les gens, hein, c'est tout à l'heure, si les gens ne peuvent pas venir, ils peuvent agir là où ils sont, quoi. Que les actions de solidarité, de soutien décentralisé continuent, c'est très important. Que les gens qui ne peuvent pas venir, mais qui veulent rester informés, aillent sur le site sad.nadir.org. Ça aussi, on peut avoir plein d'infos. Et puis, si les gens ils veulent envoyer des dons financiers aussi, c'est possible. À l'association Vibre sans aéroport, qu'on va trouver l'adresse sur le site, voilà, planadier.org, et que on remercie en tout cas tous les gens qui peuvent nous soutenir ici ou ailleurs. Voilà.
Et aussi
excuse-nous, on avait commencé à écouter l'appel. Vas-y, termine.
Merci de cette écoute et c'est important qu'on puisse aussi témoigner de ce qui se passe ici.
Tout à fait. Ah. Ne quitte pas, moi je te reprends au téléphone et on va pouvoir écouter l'appel.
Merci.
Notre-Dame-des-Landes, face aux expulsions, manifestations de réoccupation, pour reconstruire contre l'aéroport, fourches, poutres, planchettes, clous et outils en main, rendez-vous le 17 novembre dans la matinée dans un bourg proche de la ZAD.
La lutte contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'a cessé de prendre de l'ampleur au cours des dernières années. Entre autres initiatives, un mouvement d'occupation s'est étendu sur les bâtis et bocages menacés. Il y a un an, face aux menaces croissantes sur les différentes maisons, cabanes et potagers, les habitants et habitantes de la ZAD et collectifs solidaires appelaient à une manifestation de réoccupation en cas d'expulsion.
Depuis le mardi 16 octobre, l'offensive redoutée a commencé. Les 1800 hectares de la ZAD ont été envahis par 1200 policiers. Ceux-ci se sont attaqués petit à petit aux maisons et cabanes occupées, qu'ils ont détruites et emportées minutieusement, pièce par pièce, hors de la zone, pour ne rien laisser qui puisse servir aux occupantes. Les occupantes et toutes celles et ceux qui les ont rejoints sur place ont résisté, barricadé, réoccupé. Ensemble, nous avons tout fait pour enrayer les machines de destruction et bloquer les mouvements policiers. Nous sommes toujours là!
Notre détermination était renforcée par une grande vague de solidarité aux quatre coins de l'Hexagone et au-delà. Manifestations quotidiennes à Nantes et dans diverses villes, ravitaillement et soutien matériel, actions sur les représentations du PS, de Vinci et consorts, constructeurs de l'aéroport et broyeurs de nos vies.
Si la plupart des maisons en dur ont déjà été expulsées, ainsi que quelques cabanes, de nombreuses autres habitantes demeurent dispersées dans les bois, les champs, dans les arbres. De nouvelles constructions sont déjà lancées. Outre les occupantes, des habitantes et paysannes sont toujours menacées de devoir dégager de la ZAD dans les mois à venir. Autant dire que cette tentative d'expulsion XXL est partie pour durer. Les gros malins de la préfecture ont officiellement intitulé leur opération militaire César. À nous de leur prouver que la résistance face à l'aéroport est effectivement irréductible et que seront finalement des faits irridicules.
César patauge. On ne lâche rien et on est toujours là.
Au-delà de l'appel à rejoindre la zone et à poursuivre les actions solidaires dans les semaines à venir, nous confirmons aujourd'hui qu'une grande manifestation de réoccupation aura bien lieu le samedi 17 novembre 2012 au départ d'un des villages proches de la ZAD.
Après ce premier round d'expulsion, nous aspirons à un moment de mobilisation large, constructive et offensive, partagée par les différentes composantes de la lutte. Occupantes, agricultrices, habitantes du camp et d'ailleurs, associations et groupes solidaires. L'objectif sera de reconstruire ensemble un lieu ouvert d'organisation sur les terres menacées. Nous voulons faire de ce lieu un carrefour pour les opposantes.
Un point de départ pour de nouveaux habitats.
Une antenne pour organiser la résistance aux travaux à venir.
Les travaux de l'aéroport et ceux du barreau routier, première étape du projet, censé débuter en janvier.
Ils peuvent bien militariser la zone, ils ne nous empêcheront pas de nous y réinstaller. Héros Vinci, le message est clair, dégagez des terres.
Dégagez des terres.
Dégagez des terres.
Dégagez des terres.
Dégagez des terres. Deux fois.
Dégagez des terres.
On vous attend le samedi 17 novembre à 11h au départ d'un village proche de la ZAD
pour la manifestation de réoccupation.
Plus de détails
zad.nadir.org.
To fight in the
Oui, alors par rapport à Notre-Dame-des-Landes, dont on parlait tout de suite, il y a eu dans des tas de villes de France des tas de choses qui se sont passées. En particulier, il y a eu quand même eu des rassemblements assez significatif, 60 personnes à Poitiers par exemple, 70 à Saint-Nazaire, il y a eu d'autres actions un peu partout, y compris à Barcelone, d'ailleurs il y a eu une soirée d'information, il y a eu des tas de manifestations concernant par exemple à Grenoble sur l'autoroute A7 entre Marseille et Lyon, il y a eu des banderoles qui ont été déployées, je crois qu'au niveau de Calais aussi, Boulogne-sur-Mer, il y a eu aussi des choses. Il y a eu le siège de la France, de France Culture, qui a été envahi le temps de lire un texte de soutien à la lutte.
Oui, parce qu'en fait, l'idée sur cette action-là à Paris, c'était d'intervenir pendant l'émission la prestation des rois à France Inter. Alors, malheureusement, les services de renseignement font bien leur boulot et les camarades n'ont même pas pu sortir du métro. Ils vont s'arrêter dans le métro.
Il y a eu aussi le fait que les permanences du Parti Socialiste ont été un peu bousculées, entre autres à Dijon. Il y a eu Vinci qui a été visé, bien évidemment, à Bruxelles. Il y a eu du purin qui a été mis dans les boîtes aux lettres de cette entreprise, etc., etc. Il y a eu aussi des opérations parking gratuit, puisque certains parkings sont gérés, les parkmètres sont gérés par Vinci, et il y a eu des opérations, donc il y a des tas d'idées, qu'on peut avoir. Ça serait bien que d'ailleurs que sur Reims, il se passe, quelque chose, qu'il y ait des gens qui se rencontrent. Moi, je pensais peut-être qu'il y a un lieu, là, actuellement.
Oui, on va aller faire un tour. Et puis, s'il y a des gens qui se sentent concernés par ça et qui ont envie d'en discuter, vous n'hésitez pas à envoyer un mail à Les Gregor ou à appeler ou à ouvrir vos oreilles de ci, de là. Ça, c'est évident que on va tout faire pour pouvoir aller à cette manifestation du 17. Et puis, si il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie d'être solidaires, on l'a dit, pas besoin de déplacer à Notre-Dame-des-Landes, il y a de quoi faire ici largement.
Voilà. Il y a aussi le fait que une grue qui a été incendiée sur le chantier de la THT en Mayenne. C'était en soutien évidemment à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est aussi dans leur lutte contre cette ligne à très haute tension de 400 000 volts. Et là aussi était visée, bien évidemment, la fameuse entreprise Vinci.
C'est pas la grue qui a décidé de se saboter elle-même en solidarité,
mais je vais vous citer un communiqué de West France, ça simplement. On va peut-être passer à Chalon, parce que je crois qu'à Chalon,
Il se passe des choses. Alors, si vous ne le savez pas, depuis quelques années, les demandeurs d'asile, lorsqu'ils arrivent en France, avant ils allaient dans n'importe quelle préfecture pour déposer leur demande d'asile, ils étaient pris en compte à ce moment-là. Maintenant, ça se passe au niveau de la préfecture de région. Donc, c'est-à-dire que pour toute la Champagne-Ardenne, tous les demandeurs d'asile passent par Chalon. Et c'est au moment où ils arrivent à avoir leur rendez-vous, avoir leur papier pour faire leur dossier de demande d'asile en main, qui peuvent être hébergés, qu'on leur trouve un centre d'hébergement, soit un CADA, ils s'appellent tous CADA, soit un truc d'urgence où on les met. Et apparemment, on est dans une situation à la préfecture de la Marne où il y a beaucoup plus de demandeurs d'asile que les années précédentes qui sont présents, et il n'y a pas de solution d'hébergement pour eux pour l'instant, qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'avoir leur rendez-vous, soit que la préfecture n'a pas réussi à leur trouver un hébergement. Et donc, depuis quelques semaines, ces demandeurs d'asile, en provenance majoritairement de l'ancien bloc soviétique, se retrouvent devant la Croix-Rouge de Chalon, puisqu'il y a un CADA, mais aussi il y a une plateforme d'aide pour les aider à remplir leur demande d'asile. Et donc il y a eu une solidarité qui s'est mise en place. Il y a des assos qui leur ont fourni des tentes pour pouvoir dormir, qui leur amènent effectivement de quoi dormir, de quoi se vêtir. Et ça ne plaît pas du tout à la mairie de Châlons.
De Châlons, oui, parce qu'ils sont sur le terrain d'une école désaffectée qui est la propriété de la municipalité.
Oui, donc là, apparemment, ils ne sont plus sur le terrain, ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue juste à côté, juste devant. Mais ça gêne toujours. Donc il y a une action, la mairie a fait une demande en action pour qu'ils se fassent expulser de ces lieux. Donc on s'attend, pour l'instant la justice n'a pas tranché. Donc dans un premier temps, la ville de Châlons attendait les résultats d'une entrevue avec la préfecture. Apparemment ça ne donne pas grand chose. Sinon on sait que là il y a 5 familles qui ont réussi à être logées. On ne sait pas dans quelles conditions, mais on sait qu'il y a 5 familles qui ne campent plus devant la Croix-Rouge. Et donc on s'attend à que la justice tranche rapidement, je pense. Ce qui est étonnant, c'est que d'habitude ça se fait rapidement, parce que c'est des référés. Et là, on est étonné que la justice, ça fait plus d'une semaine que le référé a été déposé par la ville de Châlons et qu'il n'y ait toujours rien, aucune décision de la justice. Donc il y a encore quelques dizaines de demandeurs d'asile qui squattent devant la Croix-Rouge à Châlons en attendant d'avoir un lieu d'hébergement.
Voilà. Oui, bon, on peut aussi signaler que c'est pas la même chose à Reims, mais depuis bientôt maintenant un mois, il y a un groupe d'une vingtaine de personnes qui dorment pas très loin de l'ancien Intermarché du pont de Vitry, et que dans ces 20 personnes, il y a au moins 5 enfants en bas âge, dont 2 bébés, quoi, 2 nourrissons, hein. Vous imaginez avec les températures aujourd'hui, et il aura été répondu que pour les hébergements d'urgence, et ben tout était plein, quoi, il fallait réserver avant. Donc si vous avez l'intention d'être pauvre et de vous faire expulser de vos logements, vous essayez donc de prévoir 3 ou 4 semaines avant, hein, pour pouvoir réserver des places d'hébergement d'urgence. À signaler aussi que bien évidemment les places de logement social, ben encore dans mon immeuble, il y a encore des places qui sont vides. Et puis à Croix-Rouge, pas très loin de la place Eisenhower, il y a des bâtiments qui sont en train d'être démontés, démolis, parce qu'effectivement il y a tellement de places de HLM, d'appart, que on peut se permettre d'en démolir, alors que c'était des trucs qui étaient évidemment dans un très bon état, quoi. Donc à souligner que la trêve hivernale, la fameuse trêve hivernale dans laquelle on nous bassine tous les ans en nous disant, surtout si vous voyez des gens, appeler le 115, je vous invite à appeler le 115 pour voir comment ça se passe concrètement. Le 115, il passe qu'à la télé, hein, il passe pas dans la rue, hein, c'est pas vrai. Donc on va encore nous refaire le même feuilleton qu'on nous fait tous les ans, hein. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et ben on vous avait parlé d'une occupation à Paris, rue des Pyrénées, 260 rue des Pyrénées, où il y avait une occupation, où il y avait une quarantaine de personnes dans un ancien bâtiment de la Poste qui vivait là depuis maintenant presque 8 mois, 10 mois. À signaler que la députée de cet arrondissement de Paris et la ministre du Logement, Cécile Duflot-Laverte, et jeudi l'occupation rue des Pyrénées a été vidé de ses habitants. Bon, il y a une dizaine de personnes qui étaient encore là. Il y a eu 6 personnes avec des enfants qui ont été mis à l'hôtel pendant une semaine. Mais après cette semaine, elles n'ont pas d'autre solution, quoi. On parlait tout à l'heure des coûts et des principes de la gauche au pouvoir. Bon, de toute façon, hein, que il y a la gauche ou la droite au pouvoir, les flics sont toujours en bleu, ça, il n'y a pas de problème. Et d'après les témoignages que moi j'ai eus, des camarades qui étaient sur place, comme il y avait eu beaucoup de mal à ouvrir la porte, en bas, il y a des flics, aidés des pompiers, hein, merci les pompiers, vous savez pourquoi on vous gêne pas du coup, qui sont passés par la grande échelle et qui sont descendus en rappel à l'intérieur de la du bâtiment pour ouvrir la porte de l'intérieur, quoi.
Je te rappelle qu'à Paris, les pompiers sont des militaires.
Des militaires.
Oui, ouais, c'est, ouais. Ouais, mais ils méritent autant que les volontaires. Hein. Il n'y a pas de problème. On fait des paquets sur les agents des forces de l'ordre. Donc, ben voilà. Concrètement, on va vous demander d'appeler le 115, hein, si vous voyez des gens dehors. Et puis, ben tous les jours, ben, les politiques d'expulsion, elles continuent. Alors, donc, on avait lancé un appel, voir s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour se mobiliser sur Notre-Dame-des-Landes. Ça serait bien aussi qu'on lance un appel pour que chacun et chacune dans sa rue, dans son immeuble, fasse la liste des logements qui sont aujourd'hui vides et qui n'hésitent pas à les communiquer ou en faire la publicité, quoi, parce que ben voilà, tant que les loyers seront trop chers et tant que ça sera autant la galère pour pouvoir vivre décemment dans un endroit chauffé ou en tous les cas dans un refuge, quoi, et ben il y aura des occupations et squatter, ça sera pas seulement un moyen, ça sera vraiment un devoir.
On va peut-être se quitter, à moins que tu aies une petite virgule musicale, non? Non, pas vraiment.
Si, je peux repasser un jingle par rapport à Notre-Dame-des-Landes.
Allez, allez.
Il nous expulse, on ne lâche rien.
À Notre-Dame-des-Landes, dans un bocage à 30 km de Nantes, la mairie et le conseil général du Parti Socialiste veulent construire un aéroport.
Mais depuis 40 ans, la population résiste à ce projet. Et depuis plus de 3 ans maintenant,
des gens s'installent illégalement sur les terres réservées au projet d'aéroport.
Dans un monde qui nous pousse à aller toujours plus vite entre des espaces de plus en plus uniformisés. Dans un monde qui voudrait maîtriser tant les espaces que ceux qui s'y passent. Dans un monde qui voudrait faire de nous des individus prévisibles et rentables.
Alors que d'un côté, on déplore la crise et le manque d'argent, de l'autre, on se lamente sur le surplus d'émissions de CO2 et la destruction de la planète.
Ce serait à chacune d'être responsable et de se serrer la ceinture.
Nous unissons les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les manques vivants. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Et en petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, c'est Valéry Régor. Chaque semaine, c'est les Coligaris à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur les émissions de Régor. Vous pouvez aussi les réécouter ou les écouter sur le blog du Chat Noir 51 et le site OC Libertaire. Les Régor, une parole.